si vous en êtes d'accord, en attendant que notre auteur arrive et vous parle de son livre et de son histoire, je vous propose de vous présenter notre maison d'édition qui est très particulière puisqu'elle est issue d'un travail de recherche et que nous avons créé cette maison d'édition, donc les éditions Tracé Empreinte, uniquement pour répondre à un besoin de publication lié à nos recherches d'archives. Donc nous avons créé une association il y a une dizaine d'années qui est spécialisée en localisation d'archives liées aux réfugiés juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette association s'appelle Dorot, Association d'Histoire, et est basée dans la région lyonnaise. Notre travail premier a été de documenter l'itinéraire d'un groupe familial étendu de 21 personnes, toutes liées entre elles, c'est-à-dire le beau-frère du cousin du beau-frère, nous l'avons considéré comme faisant partie de ce groupe, et de documenter l'itinéraire de ce groupe à partir de 1933 pour ceux qui étaient originaires d'Allemagne, et 1938 pour ceux qui étaient originaires d'Autriche, qui nous a paru comme la date faisant foi pour le début des exils. Et ce groupe de 21 personnes, comment on l'a rencontré ? Moi, je travaille dans le domaine de l'histoire de la Shoah depuis une vingtaine d'années. Je suis historienne non académique, je le précise. Et lors d'un colloque dans le sud de l'Allemagne, dans le Bade-Wurtemberg, un psychanalyste israélien d'origine allemande est venu me trouver et m'a montré la photo d'une petite fille qui s'appelle Karin Susan Kornweitz. Je n'en parle pas au passé, parce que pour moi, c'est toujours une petite fille. Et il m'a dit, c'est ma petite cousine. Je suis dans l'incapacité de mener les recherches, non pas parce qu'il ne savait pas le faire, mais parce que émotionnellement c'était trop compliqué pour lui. Il m'a dit, est-ce que tu peux le faire pour moi ? Donc j'ai commencé à travailler sur le destin de cette petite fille, de sa maman, de son papa, et j'ai remonté donc à ce groupe de 21 personnes. Et au terme de cette recherche qui a duré 3 ans, donc nous travaillons sous un angle micro-historique, on documente le destin des individus, et à partir du destin des individus, on définit un modèle pour expliquer ce qui s'est passé dans le contexte historique plus global. Et Karin Susan Kornweitz a quitté avec son père et sa mère l'Autriche juste après l'Anschluss. Le père était communiste, donc juif et communiste, ça faisait le double effet impulse. Il avait déjà été emprisonné par les autorités autrichiennes avant l'Anschluss, donc qui est l'annexion de l'Autriche. Je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance historique sur l'histoire de l'Autriche, donc je me permets de préciser des choses, n'hésitez pas à m'interrompre. Et ils ont été, comme bon nombre d'Autrichiens, une des destinations privilégiées était la Belgique, qui avait une tolérance à l'asile qui était plus importante que la France en 1938, le Front populaire étant terminé, Daladier ayant fait passer un certain nombre de lois sur les étrangers indésirables dont Suzy va nous parler tout à l'heure, la Belgique restait une zone d'accueil encore envisageable. Et ce groupe se retrouve entre Bruxelles et Anvers. Les Autrichiens qui arrivent en Belgique et les Autrichiens juifs particulièrement se regroupent comme dans toutes les villes autour des gares qui sont les zones d'accueil des immigrés qui arrivent de manière précipitée. Donc on a documenté leur histoire. La police est notre alliée à nous historiens parce que les traces dans les archives sont essentiellement des documents de police. Alors, ce que je dis toujours aux familles pour qui on fait des recherches, prenez avec beaucoup de distance ce que vous trouvez dans les rapports de police, il faut le contextualiser. Tout n'est pas véridique. C'est une vérité vue par un système à un temps T. Ça n'est pas pour autant qu'une femme qu'on accuse de mœurs légères ou un homme qu'on accuse d'être un trafiquant d'or parce qu'il vend ses propres biens pour subvenir aux besoins de sa famille est réellement un trafiquant, ou que la femme est une prostituée. Ça n'est pas... Donc c'est toujours très compliqué. Donc on a documenté l'histoire de cette famille qui, en mai 40, comme les parents de Suzy Polak, quitte la Belgique. Alors, pour une partie volontairement devant l'avancée allemande, pour une autre, sont arrêtés par les autorités belges. C'est une rafle qui est peu connue, la rafle du 10 mai 40 en Belgique, où tous les hommes entre 18 et 50 ans ont été arrêtés par les autorités belges, remis à l'armée française, alors qu'à ce jour, aucun historien n'a trouvé les documents au niveau du ministère des Affaires étrangères ou d'autres ministères qui attestent de ce transfert de compétences sur des convois entiers. Et ces hommes se sont retrouvés internés dans le très célèbre camp de Saint-Cyprien. Et ils sont passés par Bordeaux. Suzy vous en parlera, elle en parle dans le chapitre de son livre. Ces arrestations de mai 40 en Belgique sont antérieures de 5 jours à celles qui auront lieu en France, à Paris d'abord, avec une première rafle, parce que ça n'est pas autre chose qu'une rafle, et un premier internement dans le désormais célèbre Vélodrome d'hiver. C'est-à-dire que la rafle de mai 40 a été totalement occultée par la rafle de juillet 42, ce qu'on peut comprendre, puisque au Vélodrome d'hiver et en mai 40, les femmes âgées de 18 à 50 ans ont été internées. On leur a demandé de venir avec une valise, des provisions pour 3 jours, des couvertures. Bien entendu, ces femmes avaient des enfants, donc elles sont venues avec leurs enfants. Et le Vélodrome d'hiver de mai 40 n'était pas plus équipé pour les recevoir qu'il ne l'était en juillet 42. Il existe au ministère des Affaires étrangères 4 lettres qui attestent de la condition d'hébergement au Vélodrome d'hiver en mai 40. Ces femmes ont été transférées à partir du 25 mai dans le camp de Gurs. C'est l'histoire de la maman de Suzy, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Et pour revenir à la famille Kornweitz et à ses alliés, les femmes qui étaient restées en Belgique ont fui avec l'exode des réfugiés belges qui sont venus en France, ont réussi à trouver trace de leurs époux ou compagnons, qui eux étaient à ce moment-là internés à Saint-Cyprien. Il y a eu beaucoup de libérations du camp de Saint-Cyprien. Et à Saint-Cyprien étaient internés des hommes juifs, allemands, autrichiens, ex-autrichiens, apatrides, des nazis. Tout le monde était interné ensemble. Pareil au camp des Milles, après les arrestations de mai 40 en France. Et on s'est retrouvé dans des situations où les commissions de criblage de la gendarmerie et de l'armée, donc, ont eu à arbitrer. C'est bien, je fais un contexte. Respire 2 minutes après les 3 étages. Ont eu à arbitrer qui libérait, et je parle de libération antérieure à l'armistice. Parce qu'après la signature de l'armistice, dans les actes qui ont été signés entre la France et l'Allemagne, une mission a été nommée pour libérer, vous imaginez bien entendu, d'abord les nazis qui étaient internés en France. C'était la mission Kunt qui a fait le tour des camps français qui étaient, comme vous le savez, extrêmement importants, pour cribler à leur tour qui avait le droit de sortir et qui, parmi les internés, demandait le rapatriement en Allemagne. Parmi la communauté essentiellement masculine internée dans les camps français, beaucoup d'hommes juifs communistes, par les réseaux de résistance communiste, ont compris qu'il fallait demander le rapatriement en Allemagne. Ça leur donnait une fenêtre d'opportunité pour s'évader vers l'Espagne ou l'Italie, qui n'avait pas encore une politique... Enfin, l'Italie n'a jamais eu une politique de remise aux nazis, puisque ce sont, à partir de 1943, les nazis eux-mêmes qui ont arrêté les juifs, et ça n'est pas les Italiens qui l'ont fait. Donc, quand on a documenté ce corpus de 21 personnes, et on les a documentés jusqu'en 1948, qui pour nous est la date limite de la Seconde Guerre mondiale, quand dans le champ, on étudie 1933-1948, ça nous donne, pour les individus, la possibilité de documenter l'intégralité de l'histoire. Dans les documents qu'on a trouvés, donc on a retrouvé d'abord ceux qui avaient survécu. Bon, Karine Suzanne a été arrêtée, déportée, n'est pas revenue. Avec sa maman, elle a été assassinée à Auschwitz. On suppose qu'elle est morte avant son arrivée au camp. Je ne suis pas là pour faire pleurer, c'est juste, sur les 21 personnes, il y avait 3 enfants, les 3 enfants ont été assassinés. Sur les 21 personnes, il y avait 2 grands-parents qui ont survécu cachés dans un grenier à Bruxelles pendant toute la guerre, aidés par leurs voisins chrétiens, et qui ont perdu tous leurs enfants, leurs petits-enfants, et qui ont publié dans les journaux de langue allemande, yiddish, jusque dans les années 50, des appels pour les retrouver. Donc ils n'ont jamais accepté. Alors quand je dis tous leurs enfants, c'est pas tout à fait vrai, parce que le plus jeune des fils, au moment où ses frères, les frères partaient en Belgique, lui était dans un mouvement sioniste à Vienne, qui l'a accompagné en Hollande, dans ce qu'on appelle une harshara, qui était un lieu de formation sioniste pour l'agriculture, en vue des migrations en Palestine. Et il a survécu. Et je vous fais l'histoire très courte, mais vous pouvez la trouver sur notre site web. Il a survécu, et j'ai retrouvé sa femme vivante. Je t'en prie, ma chérie, passe. Tu as bien mérité de t'asseoir. Je vous présente Suzanne Léopolac, qui a beaucoup de mérite, mais qui est arrivée.
C'est pas de ma faute.
Non, j'ai tout excusé, déjà.
J'étais à temps partout, dans tous les aéroports, mais c'est pas de ma faute. Hein.
Alors, je termine. Et donc, on a un site web qui s'appelle Exil Ordinaire. Il y a des documents à l'entrée, je vous enjoins de regarder. Et donc, Caroline, maintenant, je te rends la parole, puisque tu nous reçois.
Vous savez que je suis conquise d'emblée par Suzanne Léopolac, qui, bien évidemment, est stressée d'intervenir devant cette docte assemblée, et nous lui avons proposé un verre d'eau. Et elle préfère, et elle nous a demandé un verre de vin. Bravo.
Bordeaux.
De Bordeaux, bien sûr. Qu'un membre de l'équipe est allé lui. Martial est allé.
Ça va la détendre.
En tous les cas, au nom des membres du bureau et de l'équipe militante de la LICRA Bordeaux-Gironde, je suis très heureuse de vous accueillir à cet événement qui, cette année, prend un aspect un petit peu particulier grâce au partenariat dont nous honore Denis Mola, qui est membre d'ailleurs de la LICRA Bordeaux et Gironde, qui est donc l'association que vous connaissez bien, organisatrice de cette rencontre. Je remercie l'équipe qui a organisé notre réunion, Lisa, Clotilde, Lisa Villers. Clotilde, c'est comme ça, parce que je dis Weiler. Clotilde Chapuis, Julien Gary qui va nous rejoindre, et notre secrétaire Anne Canto qui est parmi nous ce soir. Mesdames, c'est vraiment un grand bonheur de vous avoir à nos côtés. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout à l'heure, je pensais te dire vous, mais je vais te dire puisque je te tutoie.
On va pas faire semblant,
voilà,
parce que
tout à fait, voilà, tout à fait. Donc tu as présenté la maison d'édition que tu diriges, et j'ai cru comprendre que tu avais créé pour les besoins de la publication de l'ouvrage de Suzanne Léopolac. Nous étions indésirables en France, une enquête familiale, je pense. Je peux me permettre de vous appeler par votre prénom,
mais
chère
bien
Suzanne,
sûr, bien sûr.
Que c'est une grande émotion pour vous d'être ici à Bordeaux, car sur le petit flyer de présentation de cette rencontre, il est précisé que Saint-Cyprien, Bordeaux et Gurs ont été les premières étapes des indésirables de 1940, et Manuela vient sans déflorer la partie de votre intervention nous dire combien effectivement les vôtres ont souffert à Saint-Cyprien et à Bordeaux. Alors pour moi qui suis la fille d'un juste parmi les nations, Henri Degpert, c'est juste parmi les nations, c'est extrêmement émouvant d'accueillir et d'entendre, et je suis pleine d'émotion et d'admiration devant vous. Quelqu'un qui a vécu dans sa chair directement cette période effroyable, qui, mes amis, est absolument incomparable à quelque autre période de l'histoire. Je crois que il ne faut jamais cesser de le rappeler. Ça n'est pas faire du communautarisme que de l'affirmer. Il n'y a pas d'autre exemple aussi ignominieux que le sort qui a été réservé aux Juifs uniquement parce qu'ils étaient Juifs. Et pour terminer, je rappelle les propos de votre papa, dont vous avez dit que dans votre livre D'une voix blanche lors d'une promenade en montagne, il a dit qu'il avait 14 ans lorsqu'il a appris...
Non, elle
vous,
avait 14.
Voilà, vous avez appris que vous aviez 14 ans lorsque... Vous avez dit que vous aviez 14 ans lorsque vous avez appris que vous étiez juif. Et les motifs pour lesquels, pendant cette sinistre période, les Juifs étaient persécutés et assassinés dans les conditions que nous connaissons. Merci d'être là, merci d'être présent. Je ne retarde pas davantage le début de cette rencontre. Est-ce que nous passons directement la parole? Est-ce que tu veux continuer les propos?
J'aimerais juste rajouter...
Manuela étant le modérateur et le coordonnateur
alors,
de la rencontre.
Je voudrais, avant que Suzanne ne raconte l'histoire de sa famille que je ne veux pas déflorer, je voudrais juste rajouter comment le livre est né. Parce que ce livre a une histoire liée aux archives et uniquement aux archives. Pendant mes recherches, comme je vous l'expliquais précédemment, je suis tombée sur une liste d'internés de Gurs qui allaient être libérés pour un centre d'accueil dans le Rhône. Il y avait une liste d'environ 25 personnes. Toutes étaient des personnes âgées, sauf deux, un médecin et une infirmière. Et dans notre travail de documentation, on recoupe les informations, donc on a essayé de savoir ce qu'était devenu ce groupe. On a remarqué qu'ils n'avaient pas été déportés, ils n'étaient pas dans les listes de victimes. Donc on s'est dit, ils ont survécu, donc il doit bien y avoir des traces ailleurs. Donc les archives du Rhône nous ont donné des réponses. Et c'est comme ça que j'ai appris que Suzy était née en 1942 à Lyon, puisque son acte de naissance, la copie, était dans le dossier d'étranger de ses parents, enfin de sa maman. Je me suis dit, bon, il y a une enfant, c'est bien. Donc on a commencé à chercher avec Google, la base, et je suis tombée sur le site internet... sur une étude que le fils de Suzanne, mais je ne savais pas que c'était son fils à ce moment-là, avait fait en mémoire de son grand-père, médecin. Et j'ai écrit à l'adresse de contact de ce petit site web en disant « J'ai des documents concernant Heinz Pollack. Est-ce que vous êtes de la famille ?» Enfin, j'avais compris que c'était le petit-fils, c'était écrit en allemand, donc mon niveau d'allemand étant suffisant, j'avais compris ça. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu une réponse par mail directement de Suzanne, et 48 heures plus tard, nous nous sommes rencontrés, et le projet du livre est né.
Ça, c'était une petite aventure en soi, parce que je vis en France la moitié de mon temps, enfin, 6 mois en France, à peu près. 6 mois en France, en Bourgogne.
Ah bon? Ça n'est pas une traître, hein, mais...
Et l'autre moitié à Vienne, toujours. Et à ce moment-là, j'étais en Bourgogne, dans ma petite maison à la campagne. Et mon fils m'envoie un mail. Et je lui envoie donc une petite lettre en disant « Heinz Pollack a de la famille. Moi, je suis sa fille. J'ai même écrit un livre en allemand d'abord, parce que j'avais écrit ce livre d'abord en allemand. Et il a paru en 94. » En Autriche, entre Autriche et Allemagne, en allemand. Mais il a été traduit par une amie et j'ai essayé de l'éditer, mais ça n'a pas marché. Et donc je lui dis ça et je lui donne aussi mon numéro de téléphone en Bourgogne. Et je pense 20 minutes après, le téléphone sonne. Et donc on s'est parlé, on s'est tout de suite très bien entendu, sympathisé, on peut dire.
On peut dire.
Et donc 48 heures, comme elle dit, elle est venue avec son fils faire une petite interview, la première interview avec moi. Et je lui ai donné le manuscrit de mon livre. Elle l'a lu la nuit, elle me dit, elle a bien ri parce que... c'est pas vraiment un sujet rigolo, mais mon père, c'est mon père, vraiment. C'est mon père qui je raconte ce qu'il dit, lui, ce qu'il m'a dit quand je l'ai interviewé. C'est toujours des petites histoires assez drôles qu'il raconte. Alors, elle a bien rigolé dans son lit, et donc, elle a décidé, ce livre, il faut l'éditer. Et puis elle aussi, elle a essayé de trouver un éditeur, elle n'en a pas trouvé, et puis elle a fait faillite en éditant mon livre avec sa maison d'édition à elle. Voilà.
Voilà l'histoire du livre.
Oui.
Maintenant, on va parler de tes parents, peut-être.
Oui, oui.
Et
alors,
de toi.
Alors, est-ce que... Alors, est-ce que... Parce que je plonge dans cette conférence.
Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser au fur et à mesure. On ne va pas être dans quelque chose de formel et d'académique. Je pense qu'un dialogue est toujours plus pratique.
Pourquoi des nazis à Saint-Cyprien ? Juste une parenthèse.
Alors, je ne sais pas si je réponds
sur ça. Oui.
Quand Daladier a fait, enfin quand la loi a été votée sur l'internement des indésirables étrangers, ont été considérés comme indésirables. D'une part, les Juifs qui n'avaient pas le droit, donc les Juifs étrangers réfugiés en France, qui n'avaient pas le droit de travailler. Donc qui devait être aidé par des organismes d'aide juifs ou non juifs. Et il faut quand même rappeler que la plupart des comités de réfugiés et la LICA, puisque nous sommes invités par la LICRA, donc ne pas oublier l'action de la LICA d'avant-guerre dans le soutien aux réfugiés d'Allemagne et d'Autriche et de Pologne, puisque n'oublions pas qu'à partir de 1939 arrivent les réfugiés de Jbagin qui ont été expulsés à la suite de l'assassinat par Greenspan. Enfin, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. Quand les arrestations de mai 40, il y a eu d'abord des premières arrestations en 1939, à la déclaration de la guerre, où les citoyens allemands ou considérés comme tels, donc les ex-autrichiens annexés sont considérés comme allemands, sont internés une première fois. Commission de criblage, on leur donne le choix entre rejoindre la Légion, les engagés volontaires étrangers, pour devenir prestataires. Ils n'avaient pas le droit, bien sûr, de porter les armes. Je pense que Denis ne me contredira pas sur ce sujet. Mais ils remplaçaient les hommes qui étaient appelés pour leur service militaire dans l'industrie. Ceux qui étaient ni en âge ni en condition physique de s'engager comme légionnaires étaient internés. Et puis il y avait ceux qui politiquement ne pouvaient pas rejoindre la Légion, notamment une partie des communistes et des anciens militaires des brigades internationales. Alors pour revenir aux nazis, les nazis étaient des Allemands. Alors ils étaient susceptibles d'être des espions en temps de guerre, considérés comme indésirables, internés dès 1939. Internés au camp des Milles, majoritairement, dans l'analyse du fichier du camp des Milles que nous avons fait, c'est effrayant le nombre de nazis, et la correspondance des internés du camp des Milles auprès des autorités pour dire « nous ne pouvons pas être avec ces gens-là, sortez-les », parce qu'il y avait des conflits. Enfin, imaginez des anciens brigadistes qui combattaient le fascisme, qui se retrouvent internés, et des communistes autrichiens et des juifs, avec des nazis qui avaient participé à Kristallnacht, enfin à toutes les exactions qu'il y avait eu sur le territoire allemand, ils étaient internés au même endroit. Donc voilà. Voilà.
Mais d'accord. Il n'y avait peut-être pas... Enfin, c'était des Allemands, il n'y avait peut-être pas seulement des nazis, il y avait simplement des Allemands qui étaient des commerçants, qui travaillaient en France, et qui étaient, comme ils étaient des Allemands, des étrangers, et donc ils étaient aussi internés.
Et puis, n'oublions pas que pour, en Allemagne, à partir de 1933, avoir une progression de carrière, il fallait être membre du parti. Quand vous n'étiez pas dans les populations ciblées, et que vous aviez participé au vote qui avait amené Adolf Hitler au pouvoir, vous étiez au parti.
Oui.
Donc, on reprend.
Bon, alors, je ne sais pas, est-ce qu'on a déjà parlé de mon livre et de mes parents ?
Non, j'attendais que tu sois
là. Bon, d'accord. Est-ce que tu as un mouchoir ?
Avec plaisir. Alors, tiens, pendant que tu te mouches.
Merci. Alors, je suis donc née... en septembre, début septembre 1942, à Lyon. Mais Lyon, c'était le pur hasard, parce qu'il y avait, apparemment, il y avait à Lyon une sage-femme qui travaillait avec toutes ces organisations. Et mes parents...
préciser les organisations ?
Ben, non, non.
Ben si, les amitiés chrétiennes, c'est quand même important.
Oui, oui, d'accord.
Le secours, enfin, l'organisation qui a sorti ces internés de Gurs... Et d'ailleurs, dans d'autres camps, s'appelait les Amitiés chrétiennes. C'était une organisation qui était basée à Lyon et qui était dirigée, entre autres, par un abbé dont le nom était l'abbé Glasberg, qui, comme son nom l'indique, n'était pas né chrétien, mais juif en Ukraine. Et c'était le seul abbé qui pouvait rentrer dans une garkiche, un restaurant donc traditionnel kasher d'avant-guerre, puisqu'on n'en trouve plus, et parler yiddish avec les gens attablés pour leur dire « Venez, on va vous sauver ». Voilà. Donc, et l'abbé Glasberg est l'homme à qui Suzy doit la vie, particulièrement.
Oui. Et donc, mes parents étaient sortis donc en novembre 41 de Gurs, du camp d'internement de Gurs, pour être à Chancay, tout petit village
au nord du Rhône,
au nord de Lyon, et ils vivaient donc un an là, juste assez pour concevoir un enfant, enfin pour produire un enfant, et la date de ma naissance était, je pense, prévue pour le 29 août 42. Alors les gens parmi vous qui connaissent les dates savent que justement à cette époque il y avait les rafles pour les juifs étaient renforcées justement dans cette région. Et mon père est donc parti. Il est parti dans les forêts à côté de ce village pour se cacher. Et trois jours après, ma mère, on a emmené ma mère, qui était très enceinte, à Lyon pour que je sois née. Mais mon père était déjà parti. Il se cachait dans les forêts. Et puis après, de là, il allait à Rouen, caché aussi dans l'appartement d'une institutrice qui travaillait aussi avec cette organisation. Et il ne savait même pas si j'étais née, toutes ces choses, il ne savait pas. Mais il y avait quand même de l'information. Et donc, il est venu. Ma mère est restée une semaine avec moi à Lyon. Puis après, elle est retournée à Chancay, dans ce petit village. Et quelques jours après, mon père est venu à pied, 40 kilomètres, pour voir ce que le produit de leur amour. Mais il fallait qu'ils viennent en cachette parce que il fallait pas que les gens, puisqu'il était parti, il fallait pas qu'ils reviennent parce qu'ils mettaient en danger tout le reste des gens qui restaient encore. Et donc il est venu, ils ont sifflé des mélodies Beethoven, je ne sais pas quoi. C'est vraiment une histoire
C'est très romanesque.
Oui, c'est romanesque, mais c'est aussi un peu idiot. Mais bon, c'est comme ça. Et donc il est venu, il a pu voir sa petite fille juste née. Et quand il y avait des autres personnes qui venaient, il devait se cacher dans l'armoire. Et puis la même nuit, il a dû repartir les mêmes 40 kilomètres à pied pour joindre l'endroit où il avait été caché. Et après, il est allé à Lyon et il a adhéré, enfin il est devenu membre de la résistance, c'est-à-dire du groupe autrichien dans la résistance française. Et il a pris un autre nom, il a eu un nom de guerre, et ma mère aussi. Donc ils ont vécu à partir de ce moment-là dans la clandestinité. Et ma mère est encore restée quelques mois à Chancay, puis elle a quitté Chancay parce qu'elle aussi, elle était en danger. On le sait parce que Manuel, elle a trouvé des documents qui le prouvent, qui sont d'ailleurs aussi dans le livre. Et puis après, elle est allée à Limoges. Et puis après, elle est allée... Elle a toujours... Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très, très gentil.
C'est non orthodoxe. Oh là 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 là. C'est non orthodoxe comme présentation.
Non, oui, mais c'est Bordeaux quand même. Alors, à votre santé. Alors,
pendant que Suzy déguste le cru local, il est peut-être bon de rajouter comment ses parents se sont connus, puisque Ilse Léo, la maman de Suzanne, qui vit toujours à Vienne,
91 ans,
comme je vous le disais, a été arrêtée à Paris et internée à Gurs, que Heinz a été arrêté à Anvers, interné à Saint-Cyprien, puis à la liquidation du camp de Saint-Cyprien, transféré à Gurs. Ilse était infirmière de la Croix-Rouge, Heinz était médecin, ils se sont rencontrés à Gurs. Et à Gurs, certes, il s'est passé des choses horribles, il y a eu une mortalité épouvantable, notamment parmi les Juifs du Pays de Bade qui sont arrivés en octobre 40. Mais il y avait des histoires d'amour, et Suzy est là pour en témoigner, puisqu'elle en est le fruit. Et ils étaient communistes tous les deux, ils ont demandé au parti s'ils pouvaient se marier. Le parti a dit oui. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Donc, pour nous, chercheurs en archives, c'était extrêmement intéressant de confronter le témoignage familial, les archives privées, parce que dans le livre, on a des photos inédites de Gurs, de ce couple, de l'infirmerie, de leur contexte. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un album. Quand Suzanne me l'a montré la première fois, j'étais... comme Droupy devant la pin-up, la mâchoire me tombait, et c'est des découvertes de collections familiales extrêmement importantes. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir interviewer sa maman, qui était un témoin direct, et elle a raconté, c'est-à-dire que les documents que j'ai trouvés dans les archives de police, pour certains étaient des mensonges, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le dossier de police, il y a marqué... que Ilse quitte Chansailles à une date T, mais en réalité, elle était partie depuis très longtemps déjà. Et c'était une manière de passer dans la clandestinité avec beaucoup de sécurité. C'est-à-dire que les traces qu'il laissait elles-mêmes étaient fausses. Voilà.
Mais je ne sais pas si vous savez si on vous l'a dit là déjà, que donc ma mère, elle venait de Berlin. Elle était née à Berlin, elle était berlinoise. Et grandit dans une maison qui était apparemment complètement assimilée aux Allemands. Et c'était pour sa famille, comme pour tellement d'autres Juifs en Allemagne qui pensaient qu'ils étaient complètement assimilés, la surprise en 1933 quand son père, mon grand-père, a été arrêté pour la première fois, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, elle venait de Berlin, et mon père, il venait de Vienne, tu en avais déjà parlé. Hein, et ils se sont donc rencontrés à Gurs, sont tombés amoureux, il y a encore des lettres d'amour qui se sont écrites dans le camp, parce que ils étaient, bien sûr, ma mère était dans les baraques des femmes et mon père, il était dans les îlots d'hommes, mais surtout il était un tout petit peu privilégié parce qu'il pouvait travailler comme médecin, donc il était c'est d'ailleurs comme ça, je pense,
il circulait dans le camp.
Il pouvait aussi circuler, ce qui était permis seulement aux médecins, au personnel du camp. Mais c'est comme ça aussi qu'ils ont pu tomber aussi amoureux, je pense, parce qu'ils avaient des possibilités de je vais pas entrer en détail. Enfin, je le pense.
Vous en êtes de toute façon le résultat.
Alors donc mon père, quand il était dans la clandestinité, il luttait vraiment. Enfin, il faisait des travaux. Incroyable, on peut dire. Enfin, comment dire. Enfin, je vais vous le dire ce qu'il faisait. Il était donc engagé. C'était le parti communiste qui lui avait donné cet ordre. Il devait travailler dans la Wehrmacht allemande. Pour avoir des informations surtout. Mais le travail encore plus... fantastique, je dirais, c'est qu'il devait parler aux soldats, aux simples soldats, et les persuader de déserter. Et je me rappelle, j'entends la voix de mon père quand il m'en a parlé encore, comme il dit, il le disait comme ça, c'était un travail complètement idiot, parce qu'on n'arrivait bien sûr pas aucun soldat n'a déserté parce qu'un petit interprète alsacien lui en avait pas parlé. Mais c'était extrêmement dangereux parce que, bien sûr, les soldats faisaient rapport. Donc, il a toujours dit qu'il n'avait pas été très efficace dans son travail de résistant.
Enfin, sans abîmer la mémoire de ton papa, c'est-à-dire qu'il y avait eu une tentative de lui confier une arme qui s'était quand même soldée par un échec.
Oui, ça, il était dans le maquis. C'était à la fin de la guerre, dans les derniers mois en 1944, parce que le groupe avec lequel il travaillait, qui avait son siège central à Lyon, avait été...
Dissous,
enfin pas dissous.
Mais il y avait... intégré à la FTPMI.
Ah non, pas du tout. Non, il y avait. Ah non, pas. C'est pas du tout ça. Il y avait un cadre très important qui avait été victime d'un qui avait été aussi dans un attentat. Il était dans le tram et à Lyon et il y avait eu un attentat contre le tram. Il a été blessé et surtout il a été aveuglé. C'était quelqu'un qui avait un rôle très important dans ce petit groupe de résistants dans lequel était aussi mon père. Et quand il était à l'hôpital, cet homme-là, il y a la Gestapo qui est venue et qui lui avait dit qu'ils étaient ses camarades et qui lui a tiré tous les secrets. Donc, tout le groupe était extrêmement en danger. Et mon père, qui à ce moment travaillait à Carcassonne, dans la Wehrmacht, avait eu l'information. Donc, il est parti tout de suite. Il est parti dans les Cévennes. Et il a rejoint un groupe de maquisards, de partisans. De vrais partisans armés avec le fusil. Qui était bien heureux d'avoir un médecin avec eux. Et donc là, il y avait cette histoire qui m'a raconté encore qu'on lui avait donné un fusil pour le tenir simplement, et puis le fusil a éclaté. Et parce que mon père n'a jamais tenu une arme dans la main, n'est-ce pas? Donc on lui a jamais plus donné un fusil dans la main, c'est clair.
Hein. J'ai cru comprendre que, pardonnez-moi de vous interrompre, au début de votre vie, vous avez été protégé ainsi que votre maman, vous viviez séparé d'avec votre papa.
Ah oui, tout à fait.
Et vous pouvez nous dire un mot de cette période de séparation pendant l'occupation,
oui,
où vous êtes protégé et sauvé, dans quelles conditions? Quel concours?
Ma mère a toujours, elle voulait à tout prix me garder, moi. Elle voulait pas parce que vous savez les enfants de ces résistants, de ces femmes résistantes, souvent ils les donnaient à d'autres gens, ils les donnaient
ou à l'oser.
Mais ma mère ne voulait pas. Elle voulait me garder, donc elle travaillait pendant toutes ces années, elle travaillait dans des pouponnières.
Donc c'était des... Ilse, on a trouvé la trace, travaillait dans des pouponnières donc de Lozé, l'œuvre de secours aux enfants, qui ensuite est passée dans la clandestinité, puisque Vichy a dissous Lozé et en a fait une des divisions au sein du commissariat aux questions juives. Et Ilse a travaillé avec le docteur Joseph Weil, qui était un médecin juif qui a sauvé des centaines d'enfants en les faisant passer en Suisse, des différents camps français. Et chaque fois que le danger se rapprochait dans l'itinéraire de Suzy et de sa maman, elles suivent en fait les itinéraires des maisons de Lozé.
Voilà, c'est pour ça.
Et des amitiés chrétiennes qui après ont pris, ont été, on va dire, l'organisation qui s'est mise devant Lozé pour dire qu'ils étaient l'opérateur. Jusqu'au jour où Vichy a dit, mais les amitiés chrétiennes, ça n'est qu'une organisation juive déguisée. Donc ils ont demandé la tête de Glasberg, qui lui est passé dans la clandestinité.
Mmh, aussi, oui. Et donc, d'abord, j'étais avec ma mère, j'étais un bébé, j'étais avec ma mère, donc d'abord à Chancel, puis après à Limoges, puis après Chancel à Vic-sur-Serre, après à Limoges et puis à la fin à Castres, toujours avec ma maman, protégée si vous voulez par elle et par le travail qu'elle faisait. Il faut dire aussi que ma mère, il faut peut-être se dire ça aussi, ma mère elle a dû donc quitter avec sa famille Berlin en 1933, elle les a joints un an après, mais peu importe. Donc elle avait 14 ans quand elle est arrivée à Paris. Elle a vécu à Paris de 34 à 40, ça fait 6 ans, la vie la vie assez normale, même très, très, comment dire,
pleine de vie, elle
pleine était de vie d'une adolescente. Et puis après, elle est allée au lycée, puis elle a travaillé, puis elle a visité les musées, elle est allée au théâtre. Enfin, elle a vraiment vécu cette vie parisienne, alors qu'ils étaient très, très pauvres. Elle venait d'une maison bourgeoise à Berlin, enfin, à Rheinsberg. Mais là, ils avaient perdu tout. Et mon grand-père avait une... Son père avait une librairie près de la place de la République. C'était une librairie bibliothèque française-allemande où il vendait des livres.
Enfin, oui, pas vraiment. Il était censé vendre des livres.
Il pouvait pas, mon grand-père.
Il était avocat, son grand-père.
Il était avocat et puis il pouvait pas vendre un seul livre parce qu'il pensait que ces livres-là, c'était le remplacement de la bibliothèque qu'il avait dû laisser à Rheinsberg. Alors il était incapable de vendre un livre. C'était en fait ma grand-mère qui a, comme c'était toujours les femmes en résistance. Oui, mais on le dit toujours. Qui a tenu, qui ne sont pas morts de faim parce qu'ils avaient littéralement pas d'argent. Ils avaient un cousin riche. Mon grand-père avait un cousin riche. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont réfugiés à Paris. Mais ce cousin, il est venu de temps en temps et puis il leur a donné des places très chères à l'opéra, par exemple. Et mon grand-père et ma grand-mère, ils n'avaient pas de robe, pas d'habit pour aller à l'opéra. Alors c'était plutôt embarrassant, ces dons de ce cousin riche, hein. Mais bon, il les avait certainement aidés aussi au début. Et alors qu'est-ce que je voulais raconter? En 40, donc, d'abord en 39, mon grand-père a été interné, puis après ma mère et puis sa sœur. Et à Gurs, elle a donc rencontré ce médecin impossible, comme elle disait elle-même, parce qu'il rouspétait tout le temps, que c'était sale et tout ça. Il a dû être vraiment un personnage assez exceptionnel. Enfin, il était, je le sais bien sûr, parce que je l'ai vécu. Voilà, et ils ont eu la chance quand même qu'ils ont survécu, juste, je dirais, surtout mon père. Et en août 44, quand la France a été libérée, ils se sont... Oui, pour répondre à votre question, hein, parce que vous m'avez demandé comment c'était. Alors, moi, je n'ai pas de souvenirs. Hein, j'étais trop jeune, trop bien sûr. Et en août 44, j'ai donc vu vraiment la première fois mon père, parce qu'ils se sont retrouvés à Toulouse, libérés. Et ils ont vécu à Toulouse de septembre, à peu près août, septembre 44, jusqu'en mai 45. Et c'était la première fois, si vous voulez, que cette petite famille pouvait vivre. Puis en mai 45, donc après la fin de la guerre, mon père a eu l'ordre du parti encore, à nouveau, de rentrer à Vienne par les moyens qu'il pouvait, et c'était à pied, je vous dis, parce qu'il n'y avait pas encore de moyens de transport à travers l'Europe. Alors, de venir à Vienne et d'aider de créer un État, un pays antifasciste.
Ça a bien marché.
Oui, voilà. Et ce qu'il a fait, il a marché Il est parti de Toulouse à pied, il a traversé les Alpes, il a traversé le nord de l'Italie, puis la Yougoslavie, enfin la Slovénie, là, jusqu'à Laibach, Ljubljana, où il a été arrêté par les communistes, parce qu'ils étaient des personnes, des displaced persons, là, encore, par des communistes. Il est resté en prison, mais finalement, ils les ont, parce qu'il était avec un camarade, ils les ont quand même libérés, puis il est arrivé jusqu'à Vienne. Et ma mère est montée à Paris avec moi, parce qu'il y avait aussi mon grand-père, son père, qui avait été libéré d'un de ces centres de réfugiés, qui est retourné à Paris, et de mai 45 jusqu'en hiver, là aussi j'ai vécu donc avec ma mère et mon grand-père. Et ma mère, elle a travaillé dans des associations issues de la résistance autrichienne. Et puis, elle voulait tout le temps rejoindre mon père. Mais ce n'était pas possible, il n'y avait pas de transport. Finalement, c'était le 6 décembre. Donc, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 7-8 mois, elle a dû attendre pour pouvoir partir en train avec moi, qui avait un peu plus de 3 ans, pour arriver à Vienne. Et voilà, depuis, je suis à Vienne. Et eux aussi, ils n'ont plus quitté Vienne.
Vous dites que vous découvrez à l'âge de 14 ans vous êtes juive.
Oui.
Et les motifs des persécutions nazies, vous pouvez nous expliquer, compte tenu de l'engagement de vos parents
C'est-à-dire, il faut dire deux choses. C'est assez difficile à expliquer à des Français. Parce que, et vous êtes tous des Français, je suppose.
ça dépend, oui.
Parce que vivre en Autriche, après la guerre... C'est tout à fait autre chose que vivre en France. Parce que les Autrichiens, qui étaient des grands antisémites depuis toujours, depuis longtemps, et qui n'arrêtaient pas d'être antisémites après la guerre. Ça, il faut le dire tout clairement. Et mon père, donc, qui était rentré dans son pays, si vous voulez, et qui voulait créer un État, enfin aider à créer, pas tout seul, mais aider à créer un État antifasciste et surtout pas antisémite, s'est retrouvé confronté avec cette ambiance toujours la même. Et je pense, je lui ai souvent posé la question pourquoi nous ne sommes pas restés en France ? J'aurais préféré, je dois dire. Alors, et lui, il m'a toujours répondu, on aurait été des salmétèques en France aussi, des étrangers en France. Il aurait peut-être dû refaire ses études ou refaire des examens pour ses études de médecin. Enfin, il n'avait pas eu le courage, il me semble. Donc, il a dû s'arranger dans cette ambiance qui n'avait pas beaucoup changé après la guerre, hein. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retiré, après un certain temps, il s'est retiré complètement de ses volontés de faire de la politique ou de lutter. Il s'est retiré complètement vers sa vie de famille. Nous avons mené, j'ai grandi dans une ambiance de famille petite bourgeoise. Et je n'avais aucune notion qu'on était des juifs. Je ne savais même pas ce que c'était. Alors, moi...
Il n'y avait aucune pratique, il n'y avait...
Non, il y avait... Enfin, mon père avait été membre du
des juifs. La communauté juive.
De la communauté juive, pendant toute son enfance, et puis en tant que jeune étudiant et tout ça. Mais il m'avait dit aussi, la foi l'avait quitté dès qu'il avait pu penser. Donc il n'était pas religieux du tout. Mais il ne voulait pas quitter pendant la guerre, il ne voulait pas quitter la religion juive, justement, parce que ça, donc, il l'a fait après, quand il est revenu. Ma mère, elle avait été... je vous avais dit que sa famille avait été assimilée complètement. Ils étaient protestants. À Berlin, on était protestants. Et elle aussi, elle n'était pas religieuse, donc elle avait quitté aussi la religion. Moi, j'ai été baptisée 2 journées après ma naissance. Vous vous souvenez, j'étais née à Lyon et j'ai été baptisée parce que c'était une question de vie et de mort, d'avoir quand même un certificat de baptême. Quand nous sommes arrivés à Vienne, en 1947, mon frère est né. Et puis en 1952... ma petite sœur est née. Et mon père, quand ma petite sœur est née, il a trouvé qu'il fallait mieux les baptiser catholiques, puisque c'était un pays catholique. Il les a donc baptisés catholiques. Il aurait voulu avoir toutes les religions, en fait, mais surtout pas la juive. C'est ça, ça c'est intéressant aussi. Alors mes deux frères et sœurs sont catholiques, et mon frère, en plus, quand il était adolescent... il était même très catholique. Il allait tous les jours à l'église, tous les jours à la messe le matin, et puis voulait devenir missionnaire en Afrique, je ne sais pas quoi. Alors, mes parents ont tenu ferme, enfin, ils n'ont rien dit, mais ils ont dit, il va peut-être devenir raisonnable, ce qu'il est devenu après.
Et vos frères ont appris comme vous ? Après, tardivement ?
Je ne sais pas très bien. Il faut que je lui demande. On n'en a pas beaucoup parlé. Quand est-ce qu'il l'a appris ? Mais moi, j'ai donc grandi dans une maison autrichienne. Il y avait un peu des choses un peu bizarres quand même, que moi j'étais protestante parce que je ne voulais pas être catholique, parce que j'avais des heures de religion libre et à l'école. Hein, et mes frères et sœurs étaient donc catholiques. C'était un peu bizarre quand même. Mais bon, et puis ce qui était bizarre aussi, je l'écris aussi dans mon livre, c'est que quand on m'a demandé où j'étais née, j'ai dû dire Lyon. Mais à Vienne, dans la banlieue où j'ai grandi, personne ne savait où c'était Lyon. C'était quoi ? C'était Léaume ou quoi ? Mais c'était Lyon et donc France. Mais alors pourquoi j'étais née en France ? Et encore beaucoup plus jeune que les 14 ans, j'ai demandé à mes parents, à mon père, toujours à mon père, pourquoi j'étais née en France. Et mon père m'a répondu... tu es née en France parce qu'on s'y trouvait par hasard en ce moment-là. C'était ce qu'il m'a raconté. Et puis quand j'avais 14 ans, j'étais quand même au lycée, chez nous. J'étais déjà au lycée, il y avait des discussions politiques. Parce que quand j'avais 14 ans, c'était en 56. En 56, vous vous souvenez peut-être, en 56, il y avait la rébellion en Hongrie. Il y avait beaucoup de réfugiés hongrois qui sont venus en Autriche. Donc, j'étais un peu alerte déjà. Et j'ai posé la question à mon père, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Et je ne peux pas vous dire pourquoi, je ne le sais pas. Je ne lui ai jamais demandé pourquoi, mais il m'a dit, allez... on va faire notre promenade habituelle le dimanche matin sur la montagne et je vais t'expliquer tout ça. Et je me rappelle encore très bien. On est monté, c'est une montée très, très élevée, lui devant moi. Et puis, il a dit cette phrase-là. Il faut que je te dise que nous sommes des Juifs et que les Juifs ont été massacrés pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils étaient juifs. J'avais 14 ans. Alors, j'ai pas vraiment digéré, je pense. Il m'a fallu longtemps pour le digérer. Et puis après, mon père, c'était un homme de lettres. Il était médecin, mais ce qu'il aurait voulu être vraiment, c'est un homme de lettres. Donc, il y avait, je sais pas, 1000 livres dans notre appartement. Et il expliquait tout. Toujours avec des livres. Alors le soir de ce même jour, il m'a apporté un livre qui s'appelait en allemand « L'étoile jaune ». Je pense que ça existe aussi en France. C'était un des premiers livres, en 56, c'était un des premiers livres qui publiait des photos des camps de concentration. des camps de concentration, des synagogues brûlées en 1938. Hein. Toutes ces photos étaient publiées dans ce bouquin. Alors il me l'a apporté le soir. Il m'a dit, voilà, tu peux lire tout ça là-dedans.
Et débrouille-toi avec ça.
Oui.
Ouais. Ce qu'il faut dire, enfin, sur le livre, si je peux me permettre,
oui, bien sûr.
C'est que quand Suzanne a commencé à enquêter sur sa famille, donc dans les années 80, elle a bien sûr interrogé ses parents, et la structure de l'ouvrage, vous verrez, est un mélange de son enquête, c'est-à-dire elle a revisité l'itinéraire de ses deux parents à la recherche de leurs traces. Et c'est mélangé, enfin mélangé, non, il y a une architecture dans le livre, mais avec le témoignage de ses parents recueillis donc, dans les années 80, donc de 56, il y a eu un silence qu'il faut quand même expliquer, qui n'a pas été qu'un silence pour toi, parce que la famille Polak, c'est Heinz, ton papa, mais c'était son frère qui avait émigré aux États-Unis et qui était toujours juif et qui était un chef d'orchestre, un compositeur reconnu et que tu as vu et que tu as rencontré. Et il y a eu la famille en Israël. Enfin, tu as, ouais. Donc il y a eu tout un cheminement jusqu'à tes 40 ans à peu près où la quête de l'identité est devenue aiguë et ça a débouché sur la recherche. Et sur un long, long process. Enfin,
c'est... Oui, oui, oui. C'est-à-dire, il faut quand même dire que j'ai senti quand il m'a dit ça et quand il m'a donné ce livre-là, j'ai senti surtout chez lui qu'il fallait pas que je pose trop de questions et puis qu'il fallait surtout pas continuer d'en parler. Et donc, j'ai fait ce qu'il voulait. Il ne l'a jamais bien dit. Mais vous savez, les enfants, ça sent quand les parents veulent ça. Alors, j'ai fait comme lui et comme ma mère. Pendant des années, jusqu'à justement les années 80, donc ça fait une trentaine d'années, on n'en a pas parlé. Et je savais, surtout avec ma mère, je savais dès qu'il y avait le sujet, parce qu'il y avait quand même de temps en temps, pas souvent en Autriche, hein, mais quand même de temps en temps, lors des procès par exemple, des procès contre les criminels de guerre qui avaient été presque tous acquittés et tout ça. Alors, lors de tout ça, il y avait toujours quand même des informations qui venaient de dehors. Mais je voyais que tout ce sujet, il ne fallait surtout pas en parler. Donc, j'ai fait comme eux. Et je pense que mon frère aussi. Et ma sœur, elle était beaucoup plus jeune. Elle a fait un tout autre chemin. On ne peut pas en parler là maintenant. Pourquoi... Alors, je savais, il ne faut pas leur poser la question. Il ne faut pas les interviewer. Il ne faut pas leur demander qu'est-ce qui s'est passé, comment ils l'ont vécu. Il ne fallait pas en parler. Et puis après, quand j'ai plus vécu chez mes parents, quand j'avais un partenaire, quand j'avais un fils, et c'est ce partenaire qui était autrichien, fils de paysan, qui, lui, ses parents n'étaient pas des nazis, mais quand même, lui, parce qu'il y en a, ma génération, des jeunes, quand ils sont conscients, ils vivent quand même dans un grand sentiment de culpabilité. Et lui, il était comme ça aussi. Alors, il m'a tout le temps posé des questions sur où étaient tes parents, qu'est-ce qu'ils avaient fait. Moi, je savais rien du tout. Et puis, je m'en fichais aussi un petit peu, je m'en moquais. Qu'il aille se renseigner autre part. Moi, ça ne m'intéressait pas de lui en parler. Puis finalement, parce que je voyais aussi mon fils, je me suis dit, il faudrait peut-être que je m'en occupe, que je sache un peu plus. Et en 85, on a décidé, avec mon partenaire, de faire un voyage et de voir tous les endroits en France où mes parents étaient. Mais pour faire ceci, il fallait d'abord parler avec mes parents, leur poser la question. Alors, il a dit, bon, on va y aller avec un magnétophone. Et moi, j'ai dit, non, on ne peut pas faire ça. Non. Et puis, de toute façon, si on le fait, ils ne vont rien dire. J'étais persuadée qu'ils ne vont rien dire. Eh bien, tout le contraire s'est passé. C'est comme s'ils avaient attendu d'être interrogés. C'était comme un fleuve. On y est allé plusieurs fois. Et puis après, quand j'avais décidé d'écrire le livre, j'y suis allée encore à chaque fois que je voulais savoir quelque chose. Et tous les deux. Bon, mon père, il aime parler de toute façon. Et ma mère, elle est plutôt silencieuse. Mais elle aussi, elle a parlé.
Enfin, c'est un phénomène qu'on a vu en France aussi, avec les témoignages à partir des années 80 et des procès qu'il y a eu en France où la parole s'est libérée, de la reconnaissance du crime. Et ce que je voudrais aussi rajouter sur la structure du livre, enfin, ce qui est toujours très intéressant, c'est pour nous aujourd'hui... L'enquête de Suzy dans la France des années 80, donc c'est avant la déclaration de 95, avant la reconnaissance de la responsabilité de Vichy, enfin de l'État français, en France, vraiment 1995, indépendamment des procès, ça a été une date charnière dans la réappropriation de cette histoire, de l'histoire de la France et les Juifs pendant la Shoah. Et le témoignage de Suzanne à travers ses rencontres avec les administrations, avec l'ancien gardien du camp de Gurs qu'elle a rencontré, nous donne une photographie de ce qui se passait. Bon, vous avez vécu à Bordeaux le procès Papon, donc ça n'est pas une ville neutre, il y a une histoire particulière ici. Néanmoins, ce qui est intéressant aujourd'hui, et quand le livre a été publié en 2009 aussi, c'est de se rendre compte d'où nous venons dans notre prise de conscience. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des choses qui sont connues du public, et il y a eu beaucoup de productions, et beaucoup de choses ont été dites et étudiées. Mais en 1985, quand Suzy vient d'Autriche et fait son premier tour de France, puisqu'il y en a eu un autre...
Plusieurs.
Voilà. C'est extrêmement intéressant de voir comment... Pour une femme venant d'Autriche, dont les parents étaient internés ici, comment elle est reçue par les gens qui ont été de près ou de loin liés à cette histoire.
Oui, c'est vrai. Oui.
C'est aussi un témoignage, enfin, indépendamment. Oui. Et l'histoire, elle commence bien avant la Seconde Guerre mondiale dans le livre, puisque tu racontes l'histoire de tes parents et de leur famille depuis, on va dire, la fin du 19e siècle, de manière très, très vivante et... parce que tu as pu interroger tes parents avec des anecdotes absolument croustillantes sur la vie quotidienne de ces gens qui n'ont pas... Moi, ce que je dis toujours, ils ont été ici des victimes, des réfugiés, des exilés. Ils avaient une vie avant. C'était des gens... Enfin, ton grand-père était avocat. Il a gagné un procès contre Goebbels qui lui a valu de partir rapidement en 1933. Voilà, c'est des gens qui avaient une vie, une activité sociale, un relationnel, des études, et qu'on ne les a considérés en France pendant longtemps que comme ces réfugiés qui sont arrivés avec une valise, rien. Or, il y avait une histoire, une vraie histoire.
Mais il faut quand même que je dise, j'aimerais le dire vraiment, que la France, ils étaient indésirables en France, sans doute, mais la France leur a sauvé la vie quand même. Leur et à moi. Moi aussi, moi je me considère, c'est pour moi difficile de me considérer aussi comme victime, mais je l'étais aussi, parce que je ne suis pas consciente. Hein, j'étais une petite enfant et je n'ai pas de souvenir, aucun souvenir. J'avais 3 ans quand j'ai quitté la France.
Mais je crois qu'on peut le dire sous le contrôle de membres de cette assemblée infiniment plus compétents en la matière. Si l'État de non-droit, dit Vichy, a été le seul État, nous avons été le seul pays à mettre à disposition notre administration, nos forces de sécurité, disposition des nazis pour leur œuvre criminelle.
C'est vrai, ouais.
Y a très peu de juifs qui ont été déportés parce que justement, il y a au sein des institutions, police, gendarmerie, fonctionnaires et de la population française qui ont sauvé des juifs. 75 000 juifs.
76 000 sont morts.
76 000. Bon,
combien sont morts ?
76 000 sont morts.
C'est énorme, mais si vous voulez, ça veut dire que une partie de la population juive a été protégée, en fait.
La population juive estimée avant la guerre était de 350 000 personnes. Sur les 76 000 juifs qui ont été déportés de France, plus des trois quarts étaient des juifs étrangers. Et ceux qui ont été préservés étaient des juifs français, parce qu'ils disposaient du réseau relationnel et des stratégies de survie suffisantes, et que j'ai bien conscience, la médaille de reconnaissance des justes est une chose. Les gens qui ont participé au sauvetage des juifs de France ne sont pas tous reconnus, parce que les actes de sauvetage ne sont pas tous... D'abord, pour être juste, il faut que le sauvetage soit désintéressé. Moi, je n'ai rien à redire contre quelqu'un qui se fait payer pour héberger et nourrir une famille pendant 3 ans. C'est-à-dire, ça ne me pose pas de problème moral dans la mesure où il leur sauve la vie. Donc, le sauvetage rémunéré, je n'y vois aucun inconvénient. On sauve les gens.
Au péril de la sienne.
Absolument, le risque était la leur. Mais pour revenir sur les stratégies de survie, on a, dans ce qui a été étudié, il y a les stratégies qui ont été mises en place par des organisations de sauvetage, et puis vous aviez le voisin, l'instituteur, enfin, je connais, j'ai appris l'histoire de ton papa, dans le village où il résidait pendant la Seconde Guerre mondiale, de l'autre côté de la Nationale. Moi, je connais plus de 25 personnes juives qui ont vécu cachés là, dans le Lot-et-Garonne, qui n'ont été sauvés par personne d'autre que par eux-mêmes. C'était des Juifs français. Ils avaient donc les moyens, et ils connaissaient suffisamment l'administration pour savoir ce qu'il fallait faire et ne pas faire pour ne pas se faire avoir. Et à bonne encontre, moi j'ai rencontré à Vienne, en venant te voir, un ancien enfant comme toi, né avant la guerre en Autriche, qui a travaillé pour les Nations Unies à l'organisation de qui est à Vienne sur l'atomique. Un ingénieur. Et quand il me parle français, il me parle français avec l'accent du Lot-et-Garonne, parce qu'il a passé toute son enfance à Bonne Encontre. Et il m'a dit non, j'étais caché dans le Lot-et-Garonne, vous pouvez pas savoir où c'est. J'ai dit mais dites-le-moi quand même. J'ai dit vous êtes à côté d'Agen. Il me dit oui, dans le Lot-et-Garonne, à Bonne Encontre. J'ai dit je vois tout à fait où est Bonne Encontre. Et voilà, tu vois, à Bonne Encontre, il y avait des Juifs cachés chez les paysans, personne ne le savait. Et c'est pour ça qu'ils ont été sauvés, c'est parce que personne ne savait que ces enfants étaient juifs. Et les stratégies de survie, c'est des solidarités parfois informelles, parfois extrêmement organisées.
Et quel est l'élément déclenchant pour vous, pour ce livre ? Comment vous vous sentez, comment maintenant ? Par rapport à vous, votre histoire juive.
C'est compliqué, ça.
C'est pas forcément une question de religion.
Ben non, pas du tout. Hein? Non, pas du tout. Non, il faut dire que mon livre allemand a paru, je vous l'ai déjà dit, en 1994. Et je l'avais écrit aussi pour trouver mon identité. Qu'est-ce que je suis ? Et d'ailleurs, le dernier chapitre de mon livre allemand, qui n'est pas dans ce chapitre, dans ce livre-là, parce que il traite mon enfance et puis les dernières années de moi à Vienne. Hein, et donc on avait dit, ça n'intéresse pas tellement les Français, c'est vrai. Hein, et j'écris à la fin que qu'est-ce que je suis maintenant ? Est-ce que je suis juif ? Est-ce que je suis... Parce que, en plus, pour parler dans la terminologie nazie, mon père est bien juif, mais ma mère n'est que demi-juif. Alors moi, je serais trois quarts juif. Hein. Donc, je le dis bien, c'est pas ma terminologie. Qu'est-ce que je suis ? Je suis née en France, je vis en Autriche. C'est ces questions-là que j'ai posées dans mon livre. Et puis, ça n'a pas vraiment résolu mon problème d'identité. Mais est-ce que je peux vous dire une chose maintenant, un grand secret, que même Manuel ne sait pas encore ? J'ai donc cette petite maison en France, là, en Bourgogne. que j'ai acheté il y a 8 ans. Et je navigue entre Vienne et la Bourgogne tous les ans. Ça me fatigue de plus en plus. Et il y a une semaine, j'ai décidé...
De venir à Bordeaux.
Oh non, quand même pas, non. De vivre toujours en France. Et je pense, parce que j'en ai parlé avec mon frère qui est venu le week-end dernier, qui est venu voir notre maman, parce qu'on va la voir aussi souvent qu'on peut. Et mon frère est psychanalyste.
Tiens donc.
Et alors, on en a parlé et je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime mieux vivre en France qu'à Vienne. Et je veux vivre en France, je ne veux plus retourner à Vienne. Enfin, je retournais bien sûr pour ma famille et tout ça, mais pour des vacances. Et lui, il m'a dit, c'est peut-être parce que tu as vécu, quand tu étais tout petit, en France.
Une réponse de psychanalyste.
Oui, parce qu'il dit, oui, parce qu'il dit, il dit que ses premières années d'un enfant sont très importantes. C'est ce qu'il a dit. Et il doit le savoir, non ?
Absolument.
Et je vous dis que c'est vraiment, c'est une grande décision. Il faut que je fasse, je ne sais pas quoi. C'est une très grande décision, mais elle me rend heureuse et je pense que je fais en sorte de... C'est une sorte de retour en France. Mon père n'a pas osé, moi je le fais et je le fais parce que je veux le faire. Et je suis vraiment très très heureuse de faire de le faire.